Voilà, il t'a pas dit. Je commence par, je vais oser une question. Quel est le nom d'Israël qu'un prophète lui a donné, où il le compare à un gâteau? Ça, c'est pour les lecteurs champions de la Bible. Il y a un indice dans la première question. Je vais oser une parole. Donc, il y a un prophète où Israël est comparé, sous un autre nom, comparé à un gâteau. Allez, je vous laisse cogiter un petit peu. Non ? Donnez votre langue au chat. C'est le prophète Osée. Prophète Osée au chapitre 6, et c'est le verset 8. Attendez, je me suis trompé dans le chiffre. C'est pas grave. C'est un verset où Osée dit « Éphraïm, Éphraïm, il désigne par là tout Israël, est un gâteau qui n'a pas été retourné. » Ah, un gâteau qui n'a pas été retourné. Il est cuit que d'une seule face. Il n'est pas bien cuit. Et par cette image culinaire, Osée veut dire que Éphraïm est un pécheur endurci. Voilà, il a besoin de vraiment se convertir, de se retourner, justement. Alors, bien sûr, ce matin, je vais revenir sur cette question du retournement. Se retourner ou être retourné, c'est ça, se convertir. On va faire quelques lectures dans d'abord le livre de l'Exode, au chapitre 33. Verset 11. Oh, parfait. 7, verset 8. Hein, c'était, oui, c'était 7. Moi, j'ai mis 6. Là. Pas bon vieillir, quoi. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Il s'agit de la tente de la rencontre. Moïse dit au Seigneur, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Le Seigneur répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» Le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Le Seigneur répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Le Seigneur dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Le Seigneur dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Étrange histoire, hein ? Ésaïe maintenant. Ésaïe chapitre 51. Vous savez, j'ai l'habitude de faire une petite collection de textes avant d'entamer ce message. Ésaïe 51, verset 1er. « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice et qui cherchez le Seigneur, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » Évangile selon Luc, chapitre 24. Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, et il disparut de devant eux. Et ils se disaient l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Je terminerai par un texte de la lettre de Paul aux Philippiens. J'espère que tout ça vous reviendra à l'esprit quand, au fil du message, mais je crois que vous en êtes capable. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments ou les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, par ton esprit, viens éclairer pour nous ta parole. Amen. Être retourné. Selon le passage de l'Exode que nous avons lu, la tonalité de la conversation entre le Seigneur et Moïse me touche beaucoup. C'est vraiment comme lorsqu'un homme parle avec son ami. On a le sentiment d'une intimité profonde, je dirais presque amoureuse. Si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Et de demande en demande, Moïse en s'enhardit jusqu'à celle de pouvoir contempler directement la gloire du Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Là, vraiment, c'est une demande limite même. La réponse à cette ultime demande est négative. Ça peut nous surprendre. En réalité, ce refus divin protège Moïse. Car l'homme ne peut pas voir la face de Dieu et rester en vie, dit notre texte. Et oui, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, impossible à l'être humain, un être de chair et de sang, de contempler directement la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, Dieu va répondre d'une autre manière. Au verset 21, il est dit « Voici un lieu près de moi ». La version d'André Chouraki, vous savez que je la cite de temps en temps, écrit ceci « Voici un lieu avec moi ». Un lieu avec moi. Il s'agit d'un lieu ambigu, un rocher en même temps qu'un creux. Un rocher et un creux. C'est un lieu limite, sans un au-delà possible. Il s'agit d'un sommet et d'un creux, pour ne pas dire une grotte. Un lieu où on est exposé, à la vue de tous, sur un rocher, et en même temps un lieu où on est caché. C'est ce lieu-là où Moïse va expérimenter le passage de Dieu. Au passage même de Dieu, la vision s'obscurcit. Dieu met sa main. Un instant. Mais Moïse ne voit pas la face de Dieu. Et au moment où Dieu est passé, Dieu retire sa main. Et ce qui est donné à Moïse de voir, ensuite, c'est le Seigneur de dos. Tu me verras par derrière. André Chouraki traduit, tu me verras par mon envers. Et c'est ça qui m'a frappé. Tu me verras à l'envers. L'envers de Dieu. Étrange vision. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'avais prêché sur Jésus-Christ crucifié comme étant l'envers de Dieu, justement. Les choses sont complètement retournées à Golgotha. Le Dieu Tout-Puissant, chef de guerre, héros du peuple d'Israël, meurt entre deux brigands sur une croix. Il n'y a pas plus grand scandale. Il n'y a pas plus grand choc, il n'y a pas plus grand retournement. Et c'est là, Dieu le dit à Moïse, que tu me verras. Un rocher, une grotte, pouvoir contempler le Seigneur et vivre malgré tout, cela ne vous rappelle rien? Cela ne nous parle-t-il pas de Jésus-Christ exposé sur la croix, au sommet du rocher du crâne, puis couché, caché, dans un tombeau taillé dans le roc, dans une grotte. Eh bien, reconnaître Dieu dans cela, c'est en vérité le rencontrer et recevoir la grâce de la vie, malgré tout. De la vie plus forte que la mort, par pure grâce. « Tu as trouvé grâce à mes yeux », répète Dieu à Moïse. Et c'est vrai pour chacun de nous. Amen. Réjouissez-vous. Vous avez trouvé grâce à ses yeux, sans avoir rien fait d'autre que de reconnaître le passage de Dieu par son envers, Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Tout nous est donné là. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est ce que semblaient avoir oublié certains croyants de Galatie, vous savez, en Turquie, là, qui étaient séduits par un retour vers les marqueurs identitaires de la loi de Moïse, qui étaient tentés de rajouter à la foi en Jésus des précautions religieuses issues de la loi. Et Paul s'indigne. Qui vous a ensorcelé ? Vous, écoutez bien, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ah, il ne s'agit pas d'un tableau, hein, mais du discours de l'apôtre. Le discours de Paul qui a été peint aux oreilles des Galates comme de tous ceux auxquels il s'adressait, c'est Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et quand on est tenté de vouloir rajouter autre chose, eh bien, c'est comme si on rejetait la croix. Quiconque regarde et croit est sauvé. Il y a un vieux cantique qui nous dit « Regarde et crois ». Regarde et crois. Jésus-Christ crucifié. Et c'est cela qui nous arrache à la malédiction, à toutes sortes de malédictions, aux pesanteurs, aux fatalités, à la condamnation, aux puissances de ce siècle, de ce monde et de son prince. Jésus nous arrache par sa croix à toutes ces choses qui nous faisaient esclaves. C'est là le cœur de la foi. Il n'y a rien à ajouter à cette révélation de la croix. Jésus Christ crucifié, c'est la révélation de Dieu. Alors évidemment, ça ne passe pas tout seul. C'est ce que n'avaient pas du tout compris ceux que Paul nomme dans une lettre, la première lettre aux Corinthiens au chapitre 2, versets 6 à 10. Paul les appelle les chefs de ce siècle. Les chefs de ce siècle. Et on peut se poser la question, qui sont-ils ces chefs de ce siècle? Eh bien, c'est un terme à double compréhension. Il y a d'abord ceux, les religieux, bien sûr, les responsables d'Israël qui ont rejeté Jésus. C'est aussi les Romains, Pilate, Hérode, qui se sont ligués. Mais c'est aussi Satan, l'adversaire, le prince de ce monde. Tous se sont ligués parce que ils n'ont pas compris du tout ce qui se passait. En prêchant Jésus-Christ crucifié, nous prêchons une sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous rendez compte? S'ils avaient su ce qui se passait vraiment à Golgotha, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Mais il fallait que Jésus aille jusqu'à la mort pour nous tous. Mais s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil humain n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ah, voilà le secret. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ce qui se passe sur la croix de Golgotha. Et Jésus l'a dit cela. Quand viendra le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et vous aurez un autre regard sur les gestes, les paroles, la mort, les souffrances du Maître, toutes ces choses qui vous ont désolé, éparpillé, ruiné, deviendront pour vous un cri de victoire, un chant de victoire. C'est pour cela que Jésus, sur la croix, prie, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pourquoi ne pouvaient-ils pas savoir? Parce qu'ils avaient de Dieu une vision différente, une vision triomphaliste, au service de leurs intérêts immédiats. Voilà ce qui se passe. C'est comme s'ils demandaient à l'envoyé du Seigneur, au Messie promis, « Make Israel great again ». Oh, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous vous tenez au courant dans les journaux un peu. Make Israel great again. Voilà ce que les chefs du peuple, les chefs de ce siècle, de ce monde, de cette ère-ci, de cet ancien monde, voilà ce qu'ils rêvaient de la part d'un Messie tout-puissant. Or, le voici cloué, impuissant sur la croix. Quel renversement, n'est-ce pas? Eh bien oui, ce retournement de Dieu, ce renversement de Dieu, de l'image de Dieu, son envers appelle notre propre inversion, conversion. Nous aussi, nous avons besoin d'être retournés, comme Éphraïm qui n'avait pas été retourné. Nous aussi, nous ne sommes cuits que d'un côté. Il nous faut être retournés par la croix et c'est ce que j'appelle le retournement de nos valeurs. La lettre aux Philippiens, dont on a lu l'extrait tout à l'heure, dit bien cette inversion. En fidélité à Jésus-Christ, ayez en vous les pensées ou les sentiments qui ont conduit Jésus vers la croix. Quelles sont les pensées qui ont conduit Jésus vers la croix? Eh bien, l'humilité, la foi, la confiance en celui qui pouvait le ressusciter de la mort, l'amour, nos intérêts, à nous, son amour pour nous tous. Voilà les pensées, voilà les sentiments qui ont conduit Jésus jusqu'à la croix. Et ce sont ces choses qui doivent nous retourner. Selon l'Évangile, les premiers sont les derniers. Les maîtres, les puissants sont serviteurs. Le petit, c'est celui-là qui est grand. Tout ça, c'est dans l'Évangile. Choisir l'humilité, abandonner toute rivalité, se rendre par amour serviteurs les uns des autres, se soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ, autant d'exhortations dont sont pleines les lettres des apôtres. Vous les lisez comme moi, et toutes ces phrases, vous les connaissez. Voilà ce que nous avons à vivre en étant retournés. Décentrés de nous-mêmes, dépréoccupés de nous-mêmes, par l'amour que Dieu verse par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Voilà ce que j'appelle vivre une conversion permanente. Être disciple de Jésus, c'est, c'est accepter d'être retourné, tourneboulé par son message. Et c'est l'affaire de toute une vie, voyez-vous. En tout cas pour moi, parce qu'il a du boulot. L'égoïsme, je connais, hein. Et je crois qu'on est tous confrontés au même vieux réflexe du vieux père Adam, qui lui a voulu être comme Dieu parce que Satan le lui avait suggéré. C'est l'affaire de toute une vie, pas d'un seul coup, c'est un apprentissage. Je dis cela pour vous encourager, parce que vraiment, des fois, on serait tenté de désespérer de soi-même. On dit, mais jamais j'y arriverai, mais Seigneur, pardon. Oh là là. Et il faut revenir, et il faut revenir. Mais c'est pas grave. L'essentiel est de continuer le chemin. Pas de s'arrêter découragé en route, mais de persévérer. Persévérer dans l'amour. Persévérer dans la contemplation du Seigneur. C'est un apprentissage, une entrée en évangile. Ce n'est pas encore la sortie, pas sortie de l'auberge. Entrée en évangile. Vous connaissez l'expression « entrée en religion ». Mais là, il ne s'agit pas de religion, il s'agit de la vie de tous les jours. Et cette entrée en évangile est un chemin qui commence. Une conversion, inversion permanente, un vrai travail d'enfantement. Tiens, à propos d'enfantement, j'ai pensé à l'exemple d'Abraham et de Sarah. Ésaïe évoque, on l'a lu tout à l'heure, les ancêtres d'Israël, le patriarche. Il leur rappelle ça pour souligner la puissance de Dieu. Je l'ai appelé lui seul et il est devenu une multitude. Et au moment où Ésaïe rappelle ça, Israël traverse une période de souffrance, d'adversité profonde face à ses ennemis. Et Ésaïe veut souligner la puissance de Dieu, d'un Dieu capable de secourir encore son peuple égaré et opprimé. Et pour l'encourager, il utilise une image qui nous rapproche étrangement de notre lecture de la rencontre entre Dieu et Moïse. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le Seigneur, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé et sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. André Chouraqui traduit « la tranchée profonde ». D'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Encore le rocher, le creux. Abraham, Sarah. Portons-nous aussi les regards sur les Écritures. Comme Jésus invite à le faire les deux disciples d'Emmaüs. Portez les regards sur les Écritures, accomplies en Jésus, mort et ressuscité. C'est ce que l'apôtre Paul recommande aussi dans sa lettre aux Romains, chapitre 15, verset 4, il dit « Tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » En acceptant de reconnaître Dieu dans son envers et en se mettant à le suivre, le Saint-Esprit nous convainc alors que Dieu a retourné son retournement. Certes, Jésus-Christ est mort sur la croix, mais il n'est pas resté cloué sur la croix. D'abord, il a été mis dans un tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est vivant. Paul le dit à sa manière, il a fait Seigneur. Non, c'est Pierre qui dit ça le jour de la Pentecôte. Il a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Quel retournement du retournement! Essayez de vous rendre compte. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu des victoires, le Dieu de David, qui lui donne la victoire sur Goliath, ce Dieu-là qui était devenu une sorte d'idole, détruit lui-même son image sur la croix. Il retourne complètement son image. Quel choc pour notre frère aîné Israël, quel choc. Puis pour les philosophes, les Grecs, enfin tous les autres, quoi, c'est de la folie. Scandale pour les uns, folie pour les autres. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la sagesse et la puissance de Dieu. Sagesse cachée depuis la fondation de l'univers, dès avant la fondation de l'univers. Ce sont des choses que Dieu avait mises en réserve et qui les a révélées par le Saint-Esprit à ceux qui l'aiment. Et aujourd'hui encore, et ce matin encore, le Saint-Esprit veut persuader nos cœurs de qui est Jésus. Il l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dit Paul aux Philippiens. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce n'est pas encore advenu tout ça, mais ça viendra. C'est ce que veut dire un verset souvent cité d'ailleurs, mais je pense qu'il est cité un peu en porte-à-faux, un peu de travers. Vous connaissez ce verset, Jean 16, 8 à 11, « Quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde. » En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et il ajoute, « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Oui, juste un instant, je vais m'arrêter un instant sur cette première phrase. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, maintenant, à partir de l'événement Jésus-Christ, Dieu ne fait plus le compte des actes, des paroles mauvaises des hommes. Tout a été englouti dans la mort de Jésus. Dieu ne fait pas de compte d'apothicaire. Action par action, blasphème par blasphème. Tout a été enlevé sur la croix. Le seul péché qui perd le monde, c'est négliger Jésus-Christ. Ne pas croire en lui. Voilà ce qui nous expose, malgré tout, à la colère de Dieu. Si nous voulons échapper à la colère de Dieu, il suffit de reconnaître et de croire. D'avoir confiance dans ce Dieu qui est venu se donner pour nous sur la croix. Contemple et crois. Regarde à la croix et crois. Jésus a bien fait de rappeler à Nicodème l'épisode du serpent de Moïse. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, après la morsure des serpents brûlants, Dieu lui avait dit « Fais-toi un serpent d'airain ». Mets-le en évidence, quiconque regarde le serpent sera guéri, quelle que soit la gravité de sa morsure. Et l'évangile de Jean reprend cet épisode curieux pour l'appliquer à Jésus-Christ. Quiconque regarde vers la croix et reconnaît en elle, dans le Seigneur qui se livre sur cette croix, le Dieu qui l'aime, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui ne veut pas qu'aucun pécheur se perde, mais que tous se repentent, tous arrivent à la repentance et à la connaissance du vrai Dieu. Regarde et crois. Oui, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. C'est-à-dire que la résurrection et l'ascension de Jésus le justifie, retourne le retournement, si je peux m'exprimer comme ça, j'espère que vous me suivez. Ce Christ qui est l'envers, ce Christ mourant sur la croix, qui est l'envers de Dieu, c'est pourtant quand même Dieu qui vient à nous. Mais la résurrection et l'ascension retournent cette apparente défaite Maintenant, nous savons que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. On l'a chanté tout à l'heure. Dans le nom de Jésus, Dieu donne la victoire parce qu'il est ressuscité. Il a été élevé à la droite du Père. Et pour utiliser un anthropomorphisme, il s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Je ne sais pas quels sont les genres de fauteuils, de sièges ou de trônes dans les cieux, mais c'est une façon de dire que la victoire est totale, la victoire est définitive. Jésus est vainqueur. Alléluia. Il convaincra le monde en ce qui concerne la justice parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Alors on est tout seul ? On est abandonné ? Mais non. Justement, le Saint-Esprit est là. Le Consolateur est là. Et il nous rassure. Il témoigne à notre esprit. Il nous persuade. Et puis, le jugement. Il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il est jugé. Vous savez qu'aujourd'hui, le satanisme a des regains de faveur et de ferveur par-ci, par-là. Il y a une espèce de séduction perverse. Mais voyez-vous, c'est une aberration. C'est une coquille vide. Le prince de ce monde est jugé. Il est cuit. Il est fini. Un jour, on a accusé Jésus de chasser les démons par le prince des démons. Et il a répondu, mais réfléchissez deux secondes. Si Satan chasse Satan, c'est fini pour lui. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? Vos fils, c'est-à-dire les disciples de Jésus, mais aussi certains exorcistes ambulants, juifs. C'est curieux parce que Jésus ne les condamne pas comme ça, mais il fait appel à leur logique. Un peu de jugeote, leur dit-il d'une certaine manière. Satan est vaincu. Il est en perte de substance. Vous croyez ça ? Vous savez, l'arme la plus puissante du diable, vous savez ce que c'est ? L'ignorance. Ils ne savent pas. L'ignorance. Et aussi longtemps que l'adversaire, appelons-la comme ça, je ne veux pas toujours parler du diable, de Satan, mais enfin, disons l'adversaire, aussi longtemps qu'il essaye de nous masquer la vérité, nous restons sous sa coupe. Mais quand la vérité nous est révélée par le Saint-Esprit, nous ne craignons plus. Nous n'en avons plus peur. C'est lui qui a peur. Comme disait l'autre, la peur a changé de camp. Rappelez-vous, quand Jésus est pendant son ministère terrestre et qu'il arrivait quelque part, les possédés hurlaient, criaient de désespoir. On sait qui tu es. Tu es venu pour nous perdre. On est fichu, c'est trop tôt. Attends, attends, Satan. Les démons étaient apeurés dans la présence de Jésus. Et ils le sont toujours. Ça n'a pas changé. Peut-être ce qui a changé, c'est que les démons sont apeurés et affolés en votre présence. C'est vous qui leur faites peur. Cessez d'avoir peur. C'est vous qui avez la victoire. C'est vous qui pouvez résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Est-ce que les chrétiens sont vraiment au point là-dessus ? Je trouve parfois qu'on parle beaucoup plus de l'adversaire, de l'ennemi, que de Jésus. Parlez-moi de Jésus. Moi, je ne peux pas parler d'autre chose ou de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas prêcher autre chose que Jésus, Jésus-Christ crucifié, mort, mis dans un rocher, ressuscité d'entre les morts et élevé à la droite du Père. Alléluia. Donc, le Père est à gauche. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est important de bien comprendre ce verset, je crois. Sur la route d'Emmaüs, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, et il disparut de devant eux. Tout ça dans un même mouvement. Leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent, et il n'est plus là. On ne met pas la main sur Jésus. Il est le Seigneur. Que lui mette sa main sur nous, sur chacun d'entre nous ce matin. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, tout retournés, tourne-boulés. Alors, courage les chrétiens, Jésus est vainqueur. Aujourd'hui, c'est le temps de notre persévérante patience. C'est le temps de notre métamorphose, du retournement permanent de nos valeurs naturelles jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, est-ce qu'on est un gâteau retourné, cuit à point ? Vous savez, pendant un temps, je me posais la question, qu'arrivera-t-il si je ne suis pas vraiment prêt quand Jésus reviendra ? Vous vous êtes déjà posé cette question ? Dites-moi, il me semble que la réponse qui m'est venue, c'est « T'en fais pas mon gars, le Seigneur complétera lui-même ce qui manque à ta foi. Tellement il nous aime. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse. Amen. »
Merci Laurent. Je vous propose de vous approcher...